remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8, tous les mercredis en direct, de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Remue-ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Eh bien, aujourd'hui, nous partons dans une atmosphère des plus étranges. D'abord, je vous présente les personnes qui sont autour de la table. La reine de la lecture, Viviane Gonick. Bonsoir.
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 La reine de l'atmosphère, ce soir, Marianne Erny.
Bonsoir.
Il faut ouvrir votre micro, Marianne Erny. Pour l'atmosphère. Et puis, moi, j'essaierai de me joindre à l'atmosphère du crime, puisqu'aujourd'hui, ce sont les reines du crime et les polars de main de femme qui sont l'objet de notre émission dans Remue-ménage jusqu'à 18h30. Et tout de suite, pour commencer, une petite musique qui nous entraîne, Esther Lamandier.
Pasión y el corazón, el mundo es cielo.
Elle tenait à la main un couteau long et mince à lame d'acier. Elle ne le brandissait pas, elle ne le braquait pas à bras tendus, prêt à taillader. Elle le tenait à deux mains, pointé vers l'extérieur, à hauteur du nombril. Elle avait les coudes au corps, l'air déterminé. Elle avançait droit sur moi. Blackford finit par s'apercevoir de sa présence. « Lâchez ça, Phébé !» ordonna-t-il. « Je m'appelle Carmelita, je ne suis pas une stupide fille mexicaine et sale, je ne vous écouterai plus. »« Phébé, Carmelita, dit-elle fièrement, je suis mexicaine, je ne suis pas stupide ni sale. »« Lâchez ça !» Elle avançait lentement, les yeux fixés sur lui. « Carmelita !» Elle cria un « Ah !» vengeur et bondit. Elle était en train de le poignarder. « Carmelita, je la giflais au visage de toutes mes forces. » Elle resta plantée là à me regarder, décontenancée. Le couteau lui tomba des mains. Il m'a appelée Phébé.
Rentrée à Scotland Yard, Kate fit irruption dans le bureau de Massingham. Elle trouva son collègue seul, entouré de paperasses. Elle prit plaisir à interrompre son travail en lui rapportant d'un ton véhément l'entretien que le patron et elle avaient eu avec Miss Washburn, l'amante de la victime. Pendant tout le trajet du retour, elle avait eu du mal à contenir son indignation. « Ce type était un salaud », conclut-elle. « Vous n'exagérez pas un peu. C'est toujours la même histoire. Lui jouit de sa réussite dans le monde, elle cachée dans ce qui équivaut de nos jours à un nid d'amour victorien, attend qu'il ait un petit moment à lui consacrer. On se croirait revenu au 19e siècle. » « Pas du tout. Cette fille était libre de choisir. Elle a une bonne situation, un appartement, un salaire confortable, une carrière avec une retraite au bout. Elle aurait pu plaquer Byron comme elle voulait. Il ne la forçait pas. Peut-être pas physiquement. » « Allons, Kate, ne venez pas me chanter une variante de la vieille chanson « C'est le Jules qui a tout le plaisir, la nana tous les tracas ». De toute façon, le statut actuel de la femme est là pour vous donner tort. Rien n'empêcherait cette fille d'avoir une explication avec son amant. Elle aurait pu lui présenter un ultimatum. Tu dois choisir, c'est elle ou moi. » Sachant quelle serait sa réponse ? Oh, c'était un risque à prendre. Non, elle aurait pu avoir de la chance. Le fait est que nous ne sommes plus au 19e siècle et que Byron n'est pas Parnell. Le divorce n'a pas pu nuire à sa carrière, du moins à peine et pas pour longtemps. Mais cela ne lui aurait pas fait du bien non plus. Ok, prenons votre petit ami par exemple, quel qu'il soit, ou n'importe quel team dont vous pourriez avoir le béguin. S'il vous fallait choisir entre lui et votre travail, cela vous serait-il si facile ? Alors avant de juger, commencez par vous demander quelle serait votre propre réaction. Cette question déconcerta Kate. Massingham devait connaître ou avait deviné l'existence d'Alain, son ami. Il était difficile de garder des secrets au sein de la police et la réserve même qu'elle montrait au sujet de sa vie privée avait dû éveiller la curiosité. Toutefois, elle ne s'était pas attendue à autant de perspicacité et de franchise de sa part. Elle n'était pas sûre d'aimer ça. En tout cas, son comportement ne m'insiste pas à le respecter. On ne vous demande pas de le respecter, de l'aimer, de l'admirer, ni ses cravates ou la beauté de ses femmes ou sa politique. Notre boulot, c'est d'arrêter son assassin. Alors, chères auditrices d'Onde Femme, Remue Ménage, pour ce soir, j'espère que vous êtes entrées avec nous dans l'atmosphère du crime et l'atmosphère du crime écrit par des femmes, de mains de femmes. Alors Vivienne, on va faire un peu une sorte de panorama des divers polars, romans policiers écrits par des femmes. On va partir depuis très loin jusqu'à tout à fait aujourd'hui, parce que tu es une immense lectrice de romans policiers. Juste peut-être avant de commencer, comment ça se fait que tu t'es lancée dans une lecture si vaste des polars? Qu'est-ce qui t'attire dans ces bouquins-là?
Ah ben, moi j'ai toujours rêvé que j'écrirais un polar, voilà.
Ni plus ni moins.
J'ai toujours pensé que... Voilà, j'aime beaucoup les polars, j'aime beaucoup cette atmosphère, cette manière en fait, à travers une enquête, à travers une intrigue comme ça, de parler d'autre chose, de parler de la vie, ça me plaît bien. Puis je trouve que c'est aussi très bon pour s'endormir, ça remplace de façon absolument extraordinaire les somnifères, en tout cas certains rom-pol. Alors vraiment, il n'y a rien à dire, les rom-pol, c'est une lecture... Je dirais pas ma lecture favorite, mais en tout cas, c'est une lecture de choix. Alors effectivement, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler? On avait envie de parler des rom-pol écrits par des femmes. Parce que quand on parle de rom-pol, on pense souvent au lecteur. Et c'est souvent, c'est beaucoup des hommes. Hein. Les rom-pol, c'est les romans de gare achetés par les hommes. Les romans roses étant plutôt les romans lus par les femmes. Et c'est des romans qui expriment la violence, qui parlent de la mort, bien sûr, parce que ça tourne quand même beaucoup autour de ça, d'un assassinat, d'une mort violente. Et on a toujours pensé que ce n'était pas des sujets qu'appréciaient les femmes. Et on se rend compte qu'il y a énormément de femmes qui l'apprécient au point d'en faire leur gagne-pain, enfin, ou leur gagne-lettre, en tout cas qui en écrivent. Et ça, effectivement, alors bon... On est bien obligé de parler de la reine incontestée du crime, de celle qui a vraiment inauguré le genre, de celle qui a écrit le plus, de la plus prolixe en tout cas, Agatha Christie.
Bien sûr, la reine des reines, l'impératrice.
La reine Agatha Christie. Alors oui, c'est vraiment la reine incontestée d'un genre et c'est très... Et on peut parler d'un chapitre qui sont les romancières de romans policiers anglaises, parce qu'elles sont tout à fait typiques et elles sont très nombreuses. Alors,
qu'on appellerait même peut-être les vieilles anglaises dans la mesure où elles écrivent depuis il y a très longtemps.
Alors on les appellera les vieilles anglaises parce qu'effectivement elles ont commencé à écrire dans les années 20 ou 30. C'est vraiment une tradition en Angleterre de ces femmes d'écrire des romans policiers, d'assassiner en tout cas dans les livres leurs proches. Alors Agatha Christie, elle lance le genre de ce typique meurtre à l'anglaise. Hein. C'est vraiment ça. On tue de façon très distinguée dans des décors qui vont du jardin du vicaire au château du petit noble provincial, en passant par la maison bourgeoise. Enfin, c'est très comme il faut. On assassine en buvant le thé entre une partie de bridge et une partie de golf. Et c'est vraiment le genre, voulez-vous une ou deux cuillères d'arsenic dans votre thé? N'est-ce pas, chère madame?
Mais comment on peut imaginer que, alors que ces vieilles anglaises qui ont l'air si chic, peuvent avoir des envies de violence et d'assassinat comme ça?
Oui, alors ça c'est quelque chose d'effectivement qui nous questionne beaucoup sur sur l'Angleterre et sur les rapports de force, en tout cas entre les sexes qui doivent... la violence incroyable de ces rapports de force, de violence qui sont sous-jacents de la société anglaise, c'est effectivement cette quantité de femmes qui assassinent leurs proches. Quoi.
Comme si c'était une façon d'assouvir la violence d'une autre façon, un exutoire.
Il doit y avoir quelque chose. En tout cas, les Anglaises, moi, si j'étais un monsieur anglais, je ferais attention. Alors, en tout cas, bon, Agatha Christie, on ne peut pas dire que c'est une féministe dans son genre, mais quand même, elle met en scène des personnages tout à fait spéciaux, et ça, c'est vraiment assez particulier des femmes écrivains. C'est un personnage... Parce que face à l'establishment anglais, qui est-ce qui finalement va découvrir la solution? C'est un monsieur ridicule, presque français, c'est vraiment très shocking. Avec
monsieur Hercule Poirot, rappelons-le.
Ou des vieilles dames anglaises, comme ça, qui passent leur temps à potiner. Et en fait, ce sont elles qui vont, elles ou lui, qui vont découvrir le crime. Et ça aussi, c'est une manière un peu de faire un pied de nez à ses contemporains. Alors, autre anglaise, enfin, c'est pas vraiment une anglaise, mais on la met dans les anglaises, c'est une néo-zélandaise, Gayo March, hein, c'est un nom absolument impossible à prononcer. Alors bon, elle est tellement... la Nouvelle-Zélande, je crois que c'est un double à l'extrême caricatural de l'Angleterre. Alors, une gaille aux marches, c'est une caricature, effectivement, d'une vieille dame anglaise. Et c'est un peu dans la même période qu'Agatha Christie. Alors, elle a aussi un inspecteur qui mène l'enquête d'un roman à l'autre. C'est l'inspecteur Alain, qui, lui, alors, il transporte un humour noir. Et puis, il a un rapport à la mort très spécial. Et effectivement, dans ses romans, la mort n'est pas du tout quelque chose de joyeux. À la fois, elle est là, elle est normale, puisque c'est un roman policier, ça tourne autour de la mort, mais quand même, on l'a toujours, dans les romans de Gaillot Marsh, il y a une espèce de peur, de recul face à la mort. Et puis alors, Gaillot Marsh, ce qui est surtout très drôle dans son... Enfin, ça, elle écrit très bien, c'est une écriture vraiment typiquement anglaise, plein d'illusions, vraiment de understatement, qu'est-ce qu'on dirait en français, de litote, de féminisme, voilà, ouais. Une manière très raccourcie de décrire des situations, ça, moi, j'aime beaucoup. Et puis, alors, son détective est amoureux. Son détective est amoureux. Oui. Il est amoureux d'une... d'une victime, d'un témoin, d'une femme témoin. Et c'est une femme très très forte, c'est une peintre, une femme indépendante et qui veut absolument pas se marier parce que justement elle a peur de cet homme qui finalement sent un peu la mort. Elle aime pas cette proximité à la mort, à l'enquête, à l'arrestation. Et alors elle le repousse, même si elle est amoureuse, et il va la poursuivre d'un livre à l'autre et finalement il va arriver à l'épouser. Belle histoire d'amour.
Hein ? Donc les...
Alors, il y en a une autre de ces Anglaises que j'aime beaucoup, c'est la Dorothy Sayers. Et c'est un peu la même chose que Gaillot Marsh. Elle aussi, elle a un magnifique, nonchalant, élégant détective, un lord, qui fait ça de façon amateur ou amatrice, comment on dirait ? C'est un amateur, Lord Peter Wimsey. Et alors, c'est, en plus, c'est une magnifique écriture. Alors, si possible, lisez-le en anglais, parce que vraiment, là, c'est une délectation. Alors, Dorothy, c'est Lord Peter Wimsey, c'est lui aussi va tomber amoureux de son... d'un témoin, non, même pas d'un témoin, d'une femme qui est accusée et qui, dans un livre qui s'appelle Poison violent, et à la fin, finalement, le mystère sera élucidé et elle sera blanchie. Alors lui, il en tombe totalement amoureux et elle non plus ne le veut pas. Elle ne veut pas perdre son indépendance et va lui aussi la poursuivre pendant 3 livres avant d'arriver à l'épouser. Alors bon, la seule critique qu'on peut faire à Dorothy Sayers, à part moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle écrit très bien, c'est que ses mystères sont un peu tirés par l'absurde, alors on ne peut pas vraiment trouver la fin.
C'est un peu le cas d'Agatha Christie aussi, non ?
Oui, enfin moi j'ai toujours...
T'as déjà réussi à trouver les...
Je lis toujours la fin avant de commencer.
Avant de commencer ?
Alors toujours, c'est mon style, je lis la fin avant de commencer. Alors, dans le style aussi, vieille dame britannique qui assassine ses proches avec un savoir-faire et une joie évidente, il y a aussi Patricia Wentworth, qui elle publia dans les années 40. Alors là, on a aussi le même mécanisme qu'avec la Miss Marple d'Agatha Christie, c'est qu'elle a une détective qui est une vieille dame adorable, Madame Silver, qui passe en fait... qui élucide tous les mystères en ne sortant jamais de chez elle, en restant toujours en tricotant des layettes pour ses nombreux petits-enfants et nombreux petits-neveux. Hein. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et le mystère est résolu.
Mais alors c'est quoi ? C'est les cancans autour d'elle qui lui permettent de comprendre ?
Elle sait très bien écouter. Ah. Alors, une autre Anglaise bon teint, c'est Georgette Heyer, qui écrit
toujours de façon très très ironique, très caustique. Alors c'est vraiment la reine du genre caustique et élusif. À part ça, moi, disons, je l'aime pas beaucoup parce qu'elle met en scène des Anglais tellement chiants et tellement horribles, ils sont plus vrais que nature.
Parce que quand tu parles d'humour, par exemple, ça veut dire qu'il y en a certains qui sont plus ou moins lourds, voire très lourds, puis d'autres franchement drôles. On sent que certaines manient l'humour d'une façon particulière.
Alors, il y en a qui sont plus, disons, dans certaines, elles sont plus, sont pas tous aussi drôles. Celles dont je viens parler, entre Dorothy Sayers et Georgette Heyers, elles ont un style vraiment très, très acéré, très caustique. Et alors, elles sont typiques, effectivement, anglaises, dans le sens que, on va pas se lancer dans la grande littérature au sujet des romans noirs et des reines du crime, mais c'est vrai qu'il y a une tradition très Jane Austen de, en fait, d'écrire à travers la description de travers ridicule, un peu ridicule des gens, on met en scène une société. Hein. Alors c'est vraiment les personnages qui sont décrits sont à la limite du caricatural. Alors peut-être qu'en Angleterre on aime moins, je ne sais pas. Ici c'est assez drôle parce que c'est effectivement des Anglais très typiques, très à la limite presque caricaturés, avec une langue acérée, caustique, une manière de une construction de la phrase qui fait que ces personnages, c'est vraiment les Lord Pym et les Major Pym, ils sont drôles. Alors les situations en soi, les livres ne sont pas nécessairement comiques dans le sens que c'est pas toujours l'effet gag qui est recherché, mais c'est plutôt dans l'écriture.
Les personnages, voilà, et l'écriture, oui. As-tu encore une de ces vieilles anglaises à nous faire découvrir ?
Alors j'en ai une qui est beaucoup publiée, c'est Ruth Rendell, qui est publiée entre autres dans la collection Les Reines du Crime, qui est c'est le masque, donc c'est une collection de
édition
poche.
Très traditionnelle des romans policiers,
voilà,
effectivement.
Jaune, là. Alors Ruth Rendell, elle est née donc en 1930, elle a été journaliste, elle a publié en fait en 1964 son premier roman. Est-ce qu'on peut l'appeler une vieille anglaise déjà ? Je sais pas.
Enfin, ça dépend de quel âge elle a.
Alors, je dirais, elle a un inspecteur Wexford qui est vraiment son détective de choc qu'elle suit d'un roman à l'autre. Et puis, la dernière dont je parlerai, c'est Joséphine Tay. Joséphine Tay qui a écrit un livre qui s'appelle Le plus beau des anges, qui est publié au Rivage Noir, qui est une très très belle édition pour ce genre de livre et qui publie beaucoup d'auteurs féminins. Alors, c'est une histoire très bizarre, mélancolique, dans la campagne anglaise, qu'elle a écrit dans les années 60, avec un personnage qui va disparaître et qui est très spécial parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Alors il y a le mystère du crime, de cette disparition, mais il y a aussi le mystère au fait sur l'identité de ce personnage. Alors on a dit de Joséphine Tay qu'elle avait ramené le crime dans les jardins du vicaire d'où Hamet l'avait délogé.
Ah, ça c'est intéressant, c'est des lieux parfaits pour créer le suspense et l'intrigue dans des milieux que chacun a créé dans sa tête et qu'il découvre sous un autre aspect, sous la plume de l'auteur.
Une autre anglaise, mais qui alors est plus récente puisqu'elle publie maintenant, c'est Martha Grimes. Alors par exemple, Martha Grimes, dans un livre qui s'appelle Le vilain petit canard, mène une double enquête. Alors c'est un crime qui se passe à Stratford-sur-Avon, je ne sais pas si je prononce bien, donc la ville de Shakespeare. Alors il y a l'enquête sur le crime. Mais en fait, les réponses aux questions d'aujourd'hui sont lues en fait dans les écrits de hier. C'est finalement ce qui s'est passé au moment de la mort de Christopher Marlowe et de la vie de Shakespeare. Est-ce que Shakespeare a vraiment écrit son œuvre ? Est-ce que c'est pas Marlowe ou d'autres ? Et c'est là qu'on trouvera les réponses aux crimes d'aujourd'hui. Donc c'est, si vous voulez, le fil conducteur de l'enquête se retrouve dans les romans de Shakespeare.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. photo est bonne. Il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin.
Alors moi, je dois avouer que je ne suis pas une lectrice aussi assidue des romans policiers comme Viviane, mais grâce à elle, d'ailleurs, j'en ai découvert des fantastiques et j'ai bien l'intention de m'intéresser d'un peu plus près au genre. Mais depuis que nous avions décidé de faire ce sujet, eh bien, j'ai glané tout ce que je pouvais. Et entre autres, j'ai découvert une très vieille anglaise. Enfin, quand on pense qu'elle écrit encore à 75 ans, vous me direz, Agatha Christie, elle est morte à quel âge? Quasi 84 ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Mais enfin, ces vieilles anglaises, enfin, elle n'a pas écrit. Elle écrit toujours, puisqu'en le roman que j'ai lu, elle l'a publié en 83. Alors elle ne met pas en scène une femme comme enquêteuse, mais un frère, un moine. Ce moine, il a quelque chose de très particulier, le frère Katfael. Il est devenu moine seulement vers l'âge de 40 ans. Et ça, je pense que c'est très important pour elle parce qu'il a tout vécu. Il a vécu la guerre, mais il a vécu l'amour. Il a vécu toutes les grandes passions des hommes et des humains. Et donc...
C'est un roman moyenâgeux,
il faut bien l'imaginer. Oui, le frère Katfael, on le situe dans une abbaye qui a existé au XIIe siècle. Donc, il faut se placer, c'est vraiment un polar historique, si on peut dire. Et alors, ce frère Katfael va user de tout son savoir pour résoudre l'énigme policière, le drame, l'assassinat dans le cadre de la campagne anglaise et entre les différents princes, ou les jeunes princes surtout, les futurs princes. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que tout à coup, il y a un personnage féminin qui va permettre de faire un immense pas à frère Katfael pour résoudre son énigme, en prouvant qu'elle connaît très très bien les personnages. Elle a très bien compris, entre autres, celui qu'on suspecte d'avoir commis le crime. Et elle va démontrer avec une assurance incroyable que c'est évident, ce jeune homme ne peut pas être le criminel parce que d'abord elle l'aime et qu'elle veut vivre avec lui. Alors elle va aider frère Katfael à trouver la solution. Et c'est intéressant de constater que certains critiques de littérature policière trouvent que vraiment Alice Peters, avec ses intrigues, non seulement donne des leçons d'histoire, mais vraiment considère, et je cite, que sa façon de mener l'enquête, c'est autre chose que les petites cellules grises d'Hercule Poirot. Je laisse à Monsieur Pierre Lébedel, critique de littérature, la responsabilité de ses propos.
Qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
cara madre, sta petrasina tale, e hasta lontano chiume sapa mare, come vorria l'uma, due tre biancale, come vorria sentire lo zampugliare. A ninne miei facite lo presepio, e a tavola mentite, o piatto mio, facite, quando è a sera la vigilia, come si miezza voi stesse. A noi è napolitano.